Alors, bon matin à vous tous, et un grand merci aussi à Johan et toute son équipe de Louange. Merci de votre présence. Oui, une bonne main d'applaudissements. Alors, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver l'Évangile de Jean. Évangile selon Jean, chapitre 1er. Et ce matin, j'aimerais considérer avec vous le thème de l'incarnation. Je l'appelle le miracle de Noël, en contraste avec un autre thème qui est bien présent dans la société à ce temps de l'année, la magie de Noël. Ou que ce soit Hollywood qui nous bombarde avec ses nombreux films. Juste pour la fin, je suis allé sur Google, de taper film sur le Père Noël, il en a sorti 53. Ou que ce soit dans les magasins, la vedette et le Père Noël, ses lutins et ses reines, et aussi où les souhaits de joyeuses fêtes ont remplacé le joyeux Noël. Vous le savez, les Anglais le disent bien. Jesus is the reason for the season. Pour une fois, les Anglais ont raison. Jésus est la raison pour la saison de Noël. Et c'est ce que nous devrions garder à l'esprit à ce temps de l'année. Alors, on va lire notre texte, Jean chapitre 1er. On va commencer au verset 1 pour le contexte. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Voilà le récit de l'incarnation. Et vous savez, il y a des différentes attitudes face à Noël. Il y a ceux qui disent que c'était à l'origine une fête païenne, alors nous ne devrions pas le célébrer. Il y a d'autres qui disent qu'on n'est même pas la bonne date, etc., etc. Mais personnellement, je pense que c'est un temps de l'année propice. Au milieu de tout le brouhaha, la frénésie dans les magasins et les parties de Noël, de s'arrêter et de se laisser encore une fois émerveiller par l'incarnation, le miracle de Noël. Se laisser émerveiller par la nature de l'incarnation. Dieu est devenu homme. Se laisser émerveiller par le mystère de l'incarnation. Celui qui demeure dans l'éternité, demeure dans l'espace et dans le temps, sans cesser d'être éternel. Le Créateur est devenu, nous vient comme une créature dans un monde créé par lui, tout en demeurant celui qui soutient toutes choses. L'infini est devenu fini. L'invisible est devenu visible. Le surnaturel s'abaisse au naturel. En résumé, le Fils de Dieu devient ce qui n'était pas, tout en demeurant ce qui a toujours été. Wow! Quel mystère! Le comprenez-vous? Non. Moi non plus. Se laisser émerveiller par l'unicité de l'incarnation dans toutes les autres religions. Dieu devient une philosophie, un niveau à atteindre, une technique, un système, mais c'est seulement dans la chrétienté que Dieu devient un être humain, un homme. Et même si toutes ces choses sont très essentielles au fondement de notre foi, ce matin j'aimerais plutôt focaliser sur les implications de l'incarnation. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Quelle différence ça devrait faire dans votre vie et dans la mienne? Et quel impact cela devrait avoir sur nous en tant qu'Église et même aussi sur les ministères de l'Église. Alors j'aimerais vous proposer ce matin, si ça pourrait fonctionner, problématique, vive la technologie, ça ne fonctionne pas. J'aimerais vous proposer trois implications de l'incarnation pour répondre à ces questions. Et je vois que Christian est en train de... Ah, voilà. Merci, Christian. Alors, il y a juste trois implications de l'incarnation, justement, pour répondre à ces questions. Alors, tout d'abord, l'incarnation nous démontre une identification la plus complète. Une identification dans laquelle Dieu, le concepteur et l'architecte d'un univers éblouissant, est devenu un homme particulier avec un but précis et spécifique pour pleinement connaître et pleinement s'identifier avec la condition humaine. L'apôtre Jean, dans son évangile, après nous avoir dit que la parole a été Dieu, nous dit ceci au verset 14, le texte que nous avons lu, la parole a été faite et dans la pratico-pratique, cela veut dire que Dieu est devenu un embryon, ensuite un fœtus, ensuite un bébé ayant des yeux, un nez, une bouche, etc. Cela veut dire qu'il est né tout comme tout autre bébé à un endroit précis, Bethléem, à une telle époque, c'était l'an moins 4 de notre ère, il a suivi le processus de développement humain en grandissant et en gagnant du poids. Il y a eu aussi des besoins physiques. Ça, on parle du Créateur. En devenant homme, il y a eu des besoins physiques. Il y avait faim, il y avait soif. Il pouvait devenir fatigué, il avait besoin du repos. Il a fait l'expérience des émotions humaines, la déception, la solitude, la tristesse, l'angoisse, la frayeur, la colère, la joie, l'allégresse, pour en nommer quelques-unes. Mais Jean aussi ajoute dans son texte, Jean 1, 14, que la parole a habité parmi nous. Dans le texte originel, ça veut dire simplement, il a érigé sa tente parmi nous. Cela a été mentionné ce matin lors du repas du Seigneur. Et la version anglaise de Message nous dit ceci, il a déménagé dans notre voisinage. Ah, j'aime ça. Il a déménagé dans notre voisinage. Et à l'époque, cela voulait dire qu'il a grandi et vécu en Palestine. Palestine qui subissait la cruauté et l'injustice à cause de l'occupation romaine. En 1962, l'édition de Noël du journal The Florida Times avait deux premières pages, exceptionnellement. L'éditeur explique, pour rester dans l'esprit de Noël, seulement les bonnes nouvelles apparaîtront sur la première page. Et pour un rapport détaillé de ce qui se passe ailleurs, veuillez consulter la page 3A. Alors, comme promis, la une démontrait le pape sur le balcon, en train de bénir la foule qui s'était assemblée au carré Saint-Pierre. Il y avait l'histoire d'une église qui était venue en aide aux familles nécessiteuses. Un autre qui parlait des pèlerins qui rentraient à Bethléem. Et bien sûr, il y avait une grande photo du Père Noël étendue sur son patio, à côté d'une piscine, sans bottes, qui réchauffait ses orteils au soleil. Les manchettes de l'autre page se lisaient comme suit. Les hommes masqués dévalisent une banque à Chicago pour une somme de 100 000 $. Un père et ses 9 enfants périssent dans un incendie. Une guerre civile fait rage au Congo. Le gouvernement est renversé en Tunisie. Et là, nous pouvons apprécier ce que l'éditeur essayait de faire. Mais il a raté complètement la vraie signification de Noël. Parce que Dieu le Fils n'est pas né dans un monde fantaisiste de bonnes nouvelles seulement. Il est né dans un monde, notre monde, qui était aussi méchant et aussi dangereux à l'époque comme il l'est aujourd'hui. Et dans cet évangile, Luc va prendre la peine de nous donner des noms de ceux qui gouvernaient à l'époque. Il parle de Hérode, roi de Judée. Il parle de César Auguste et de Quirinius. Et l'histoire nous dit que ces hommes étaient des hommes cruels, avares et sans scrupules. Vous allez vous rappeler ce que c'était Hérode le Grand, celui qui a ordonné le massacre de tous les enfants de 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Alors le Fils de Dieu, pour entrer dans l'histoire humaine, de déménager dans notre voisinage, comme quelqu'un a si bien dit, c'était un passeport pour la douleur et la souffrance. Je donnerai quelques exemples. Il est né dans un étage, dans une étable plutôt. Il était dans une crèche, pas sur l'étage, il était né dans une étable. Et j'imagine que ça ne sentait pas la rose. Et pourquoi? Parce que il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pouvez-vous imaginer? Né dans une telle circonstance, pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Petit enfant est obligé de s'enfuir avec ses parents jusqu'à un pays étranger à cause parce qu'il y avait une menace de mort qui se planait sur sa tête. Il a grandi dans un village méprisé, Nazareth, et il a connu la pauvreté. Il a été rejeté par les chefs religieux qui cherchaient constamment à le faire mourir. Il a été chassé par les habitants de son propre village qui, eux aussi, voulaient le tuer. Mal compris par les membres de sa famille. Trahi par l'un de ses propres disciples. Abandonné par ses disciples alors quand il avait le plus besoin d'eux. Renié par un autre de ses disciples. Exécuté comme un brigand, un malfaiteur, un criminel sur une croix. Oui, il a ainsi subi la pire des humiliations et la mort la plus cruelle, la plus horrible, la plus dégradante jamais conçue par l'homme. De la crèche jusqu'à la croix, pour Dieu le Fils, vivre dans notre monde, déménager dans notre voisinage, voulait dire souffrir. Ésaïe le prophète avait si bien dit qu'il y a 700 auparavant, homme de douleur est habitué à la souffrance. Et à travers l'incarnation, Dieu dans la personne de son Fils sait comment nous sentons et il nous comprend parfaitement, nous qui vivons aussi dans un monde où la souffrance existe. Parce qu'il a goûté. Et cette connaissance n'est pas d'ordre indirect, de seconde main ou théorique, mais plutôt direct, de première main et personnelle. Et dans l'incarnation, Dieu démontre qu'il s'approche de nous, il s'identifie avec nous, il soupire et pleure avec nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'il faut proclamer à Noël. Dieu se soucie de nous. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux affirme, Hébreux 2:18, « Ayant lui-même souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. » Et j'aime beaucoup le texte dans Hébreux 4:18, c'est pas à l'écran, mais je vous le cite. « En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses, et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards. Il a été soumis absolument aux mêmes épreuves que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. » Alors, il y a des bonnes applications qui découlent de ce fait que Dieu s'est incarné, il a goûté à la souffrance, il nous connaît, il sait exactement qu'est-ce qu'on vit dans ce monde. On peut parler justement du secours de Dieu dans la souffrance. On peut aussi parler de l'humilité en s'incarnant. Paul il va utiliser justement cet aspect de l'incarnation en Philippiens chapitre 2, où le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié lui-même en devenant un homme, prenant la forme d'un serviteur. Et il fait l'application aussi que dans nos relations, en regardant l'incarnation, en regardant l'humilité là qui est là en toute sa splendeur, comment nous aussi, dans nos relations les uns avec les autres, que ce soit mari et femme, que ce soit dans l'église, frères et sœurs, comment est-ce que nous aussi nous devons modeler cette humilité. Mais j'aimerais aussi focaliser ce matin sur un autre aspect de l'incarnation, la mission. Comment devrions-nous communiquer l'Évangile? Parce que ça aussi, ça découle justement du fait de l'incarnation. Et je vous raconte une petite anecdote. En 1926, un nommé George W. Harley, un médecin missionnaire et pionnier, a fondé la mission Ganta en Libéria. Et pendant de longues années, il s'est occupé du peuple Mano en traitant leurs maladies, mais ils étaient peu intéressés à entendre l'Évangile. Un jour, son garçon Bobby, qui est né en Libéria et âgé de 5 ans, est tombé gravement malade. Il a succombé peu de temps après. Alors, le cœur lourd, George Harley a confectionné un petit cercueil en bois. Il a déposé son fils et a commencé à marcher vers la forêt pour l'y enterrer. Et chemin faisant, il a rencontré l'un des veillards du village qui, quand il a appris ce qui se passait, il a offert à transporter le cercueil. Et rendu à une clairière dans la forêt, ils ont creusé un trou, ils ont enterré le garçon. Mais à ce moment, se sentant si seul et si loin de chez lui, George Harley n'en pouvait plus. Il a commencé à pleurer à chaudes larmes. Et le vieillard, tout à fait surpris, l'a écouté pendant un moment. Et il s'est mis à courir vers le village en criant, « l'homme blanc, il pleure comme l'un de nous !» Le dimanche suivant, le chef du village, avec presque tous les villageois, se sont présentés à la petite chapelle. Ils voulaient entendre l'Évangile, apprendre qui était Jésus. Et Harley écrit, « En ce moment, je savais qu'on avait fait une percée. » Et je pense qu'il y a une application pour nous ici. Quand on parle de la mission, quand on parle de communiquer l'Évangile, on ne peut pas le faire de loin. Dans l'incarnation, Dieu s'approche de nous. Et je pense à Hudson Taylor qui a vécu parmi les Chinois, il a appris leur langue, il s'est même habillé comme ce peuple-là. Il a vécu parmi eux pour communiquer l'Évangile. Et je crois que certainement il y a un message pour nous face à notre implication dans notre communauté au Cap de la Madeleine. Deuxièmement, l'incarnation nous parle non seulement de l'identification la plus complète, mais aussi la révélation la plus claire. Si on regarde notre texte dans Jean chapitre 1 au verset 18, le texte nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, c'est lui qui l'a révélé. Nous l'a révélé. Toute une déclaration. Dieu, le Fils unique, nous révèle Dieu, le Père. Et vous savez, Moïse voulait voir Dieu. Et Dieu a dit, arrête Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Je vais te cacher dans un creux du rocher, je vais passer et tu vas me voir simplement par derrière. On pense aussi à Isaïe qui est allé, il dit que l'année de la mort du roi Ozias, il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple, et tellement cet homme est bouleversé par la sainteté et la présence de Dieu. Il voit juste les pans de sa robe. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tellement radicalement, totalement différent de nous, que tous nos efforts pour saisir, pour comprendre, pour décrire ce Dieu éternel, le Tout-Puissant, ce Dieu trois fois saint, sont futiles et voués à l'échec. Et si on peut comprendre, si on peut saisir quoi que ce soit à propos de Dieu, il faut que Dieu prenne l'initiative et se révèle à nous. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Par l'incarnation, la parole étant devenue chair et ayant déménagé dans notre voisinage, nous a révélé Dieu. Et ça, c'est notre message aussi qu'il faut déclarer à Noël. Ce matin, nous ne sommes pas comme Job qui s'est écrié dans Job 23:3, « Oh, si je savais où le trouver! » Dieu s'abaisse à nous. Il nous montre son Fils. Et il dit, « Me voici, contemple-moi. » Les Écritures affirment cette vérité. Dans Jean 14:9, Jésus dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et dans Colossiens 2:9, nous lisons ceci, « En lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » La divinité. Et on nous raconte que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un aumônier qui tenait la main d'un jeune soldat âgé de 19 ans qui était en train de succomber à ses blessures. Il était mourant. Il voulait savoir à tout prix si Dieu serait vraiment comme Jésus-Christ. Et l'aumônier a pu le rassurer qu'il ne serait pas surpris rendu au ciel. Parce qu'effectivement, Dieu est vraiment comme Jésus-Christ. Alors, Jésus, le Fils de Dieu, nous révèle comment Dieu est. Mais il y a aussi une autre vérité qui découle justement de l'incarnation. Jésus-Christ, Fils de l'homme, nous révèle aussi comment l'homme devrait être. Et vous savez, en Genèse 1, verset 26, quand on parle de la création, Dieu dit qu'il a créé l'homme en son image et à sa ressemblance au début. Mais vous savez, la triste histoire, le péché est entré dans le monde, et cette ressemblance de Dieu qui devrait être là, chez vous, chez moi, chez l'être humain, a été terriblement défigurée. Et la race humaine, le summum de la création de Dieu a été coupable des pires atrocités. Même les animaux ne font pas ce que nous faisons les uns aux autres. Il y a eu, je vous en nomme quelques-uns, l'Holocauste juif. Le génocide au Rwanda. Des purifications ethniques, des meurtres, des viols et j'en passe. Mais à travers l'incarnation, dans la personne de Jésus-Christ, Fils de l'homme, nous voyons l'image de Dieu restaurée dans toute sa splendeur. Et nous avons de beaux textes dans 2 Corinthiens 4:4, Christ est l'image de Dieu. Et Colossiens 1:15, le Fils est l'image de Dieu invisible. Alors Jésus-Christ, par sa vie ici-bas sur la terre, nous a démontré ce que Dieu a toujours voulu pour l'humanité qui a été créée à son image. Vous savez, on peut enseigner des vérités en disant des choses. Mais il est bien encore mieux de dire quelque chose à quelqu'un ou lui montrer qu'est-ce que tu veux lui enseigner en le faisant. Et c'est exactement ce que Jésus a démontré. Il a enseigné des vérités, mais il a aussi fait des choses, il a mis en pratique ce qu'il enseignait. Et Luc, quand il commence les Actes des Apôtres, il va décider à propos de Jésus-Christ. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et je vous donnerai quelques exemples allant de ce principe. Jésus n'a pas discouru sur la dignité du travail. Il a travaillé comme fils de charpentier. Il a rendu le travail une tâche honorable. Il n'a pas enseigné de façon magistrale à propos de la valeur des enfants. Il leur a imposé les mains pour les bénir. Et il nous a rappelé que le royaume des cieux les rassemblait. Il n'a pas fait l'éloge de l'amitié et notre besoin de sympathie. Il est tombeau de Lazare, il a pleuré. Il n'a pas participé dans un débat pour prouver la valeur des femmes et pour défendre leurs droits. Il les a traités avec respect. Et quand il est ressuscité des morts, il est apparu à une femme premièrement. Il a enseigné la vertu de l'humilité, mais il s'est aussi saint d'un linge. Puis il a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas parlé de pardonner seulement. Il l'a démontré en pardonnant à ceux qui l'ont crucifié sur la croix. Il n'a pas seulement parlé de l'amour du prochain. Il l'a démontré en se sacrifiant pour vous et pour moi sur la croix de Calvaire. Et souvent, en évangélisant, nous parlons du pardon. On va parler des gens du pardon de Dieu, de l'amour de Dieu, de la sainteté de Dieu. Mais je veux vous dire que ces vérités seront beaucoup plus convaincantes si elles sont incarnées dans nos vies. Michael France nous raconte l'histoire suivante dans le livre « The Shaping of Things to Come ». Il avait assisté à une réunion d'évangélisation à l'étranger, où l'évangéliste, à la fin du sermon, était en train de répondre aux questions. Et puisqu'il était familier avec... C'est pas la première fois qu'il avait donné justement ce type de réunion. Il était familier avec les questions. Alors sa réponse a coulé comme on dit, du mal dans les poils. Jusqu'à ce que la question que personne n'attendait a été posée. Où était Dieu quand j'ai été violé? On pouvait entendre des mouches voler. Pendant que ce temps, on se demandait qu'est-ce que l'évangéliste allait dire. Frost décrit ce qui s'est passé ensuite. L'évangéliste s'est arrêté. Puis il a essayé de répondre. Mais chaque fois qu'il s'est penché vers le micro pour répondre, il n'arrivait pas. Tellement, comme on dit en bon québécois, il y avait la mouton à la gorge. Et puis, de grosses larmes ont commencé à couler le long de son visage. Et ce soir-là, il a pleuré au vu de tous. Et quand finalement, il a retrouvé son calme, il a dénoncé avec vigueur et même avec une certaine colère une société patriarcale qui permettait aux hommes de voir les femmes comme des objets. Et France dit dans son livre, il ne se souvient pas des réponses raffinées de l'évangéliste. Il n'y a jamais oublié la compassion que l'évangéliste a eue pour cette femme. Et c'est de la même manière, quand la vérité de l'évangile n'est pas juste simplement annoncée, mais incarnée dans des personnes, en vous, en moi, cela a un impact profond sur les autres. Ils vont l'accepter, peuvent refuser. Mais dans le cas d'un refus, ce ne serait pas à cause de notre hypocrisie. Bientôt, ce sera Noël. Et vous savez, on se rencontre souvent dans les rencontres familiales. Et peut-être, parmi vous, quelques-uns, vous redoutez ce moment. Vous pouvez être là où les seuls chrétiens dans ce type de rencontre. Et peut-être vous avez essayé de parler du Seigneur dans le passé, les gens ne veulent rien savoir. Mais vous savez, on n'a pas besoin de toujours parler. Pourquoi ne pas incarner l'une des vertus de Christ et la mettre en pratique lors de ces rencontres? Laissez votre entourage voir le Christ en vous et ce serait la meilleure révélation de Dieu que vous puissiez leur donner. Comme le Christ est venu, il nous a révélé comment Dieu était, par ses paroles, mais aussi par ce qu'il a fait. Et troisièmement, dernier point, l'identification, l'incarnation, l'identification la plus complète, la révélation la plus claire, mais aussi la réconciliation la plus chérie au cœur de Dieu. C'est ce que désire Dieu désire à tout prix, cette réconciliation. Et vous savez, l'histoire de la race humaine est l'une des plus tristes. Dans Genèse chapitre 3, l'homme se rebelle contre son créateur. Dans Genèse 4, Caïn tue son frère Abel. En Dieu, Genèse 6, nous disons que la terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Comment dire en bon québécois, ça n'allait pas bien. Et il me semble que si j'étais Dieu, j'aurais fait cela. Delete. Fini. Plan A, là, on va faire un plan B, puis on va construire, on va créer un autre type de créature là, qui va être un peu plus obéissant. Et vous savez que Dieu, il a envoyé le déluge, mais il a préservé un homme, Noé, parce qu'il y avait un plan pour l'humanité. Et qu'est-ce que c'était ce plan? Quand Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, il va joindre la divinité avec l'humanité, il va affirmer justement l'humanité. Et Jésus, après sa résurrection, est apparu à ses disciples dans Luc 24, 39. Il va leur dire, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez que j'ai. Et c'est avec ce même camp que Jésus est monté au ciel. Et comme Hébreux 1, 3 nous dit qu'il était assis à la droite de Dieu, la majesté divine dans les lieux très hauts. Et j'aime ce matin, au moment où ce que je parle, j'aime me rappeler qu'il y a un des nôtres, au ciel, Jésus-Christ, fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Quelqu'un semblable à nous, à l'exception du péché. Vous voyez comment Dieu, il n'est pas mis de côté l'humanité. Il joint la divinité à l'humanité. Il y préserve aussi, à travers son fils, l'humanité pour l'éternité. Et ça, c'est tellement, il y a tellement d'implications dans ce fait-là. Alors, ça nous dit qu'il y a un plan pour l'humanité, et c'est aussi son plan pour nous. Parce que nous, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Paul va nous dire aussi que nous porterons aussi l'image du céleste. L'apôtre Jean nous dit que nous serons semblables à lui. Alors, ça, c'est le plan de Dieu pour l'humanité, d'être réconcilié, d'être restauré et d'être transformé. Quel beau plan. Et tout cela nous vient à travers l'incarnation. Parce que le Fils de Dieu, il prend en forme humaine, mais il les garde. Et ça va être dans toute l'éternité, on va aussi être des êtres humains au ciel. Alors la question se pose, comment se passer alors d'un individu déchu à un individu réconcilié, restauré et transformé? Alors, vous savez que les religions vont nous donner toutes sortes de trucs, des bonnes œuvres, pratiquant certaines techniques, récitant même certains mantras. Et vous savez tous, comme la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres. Et la Bible nous dit aussi que toute notre justice devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Et non seulement cela, mais Dieu, dans sa grâce, on a entendu ce matin que Dieu est saint et juste, et sa loi parfaite exige la perfection. Et de l'autre côté, la loi de Dieu exige aussi une conséquence terrible pour l'imperfection, notre péché, notre incapacité de vivre et plaire à Dieu. Et ce sont des façons qu'on peut amener l'évangile quand on parle aux gens. De démontrer justement que la race humaine telle qu'elle est pour le moment, sans être réconciliée, sans être transformée, elle est déchue. Et Dieu, dans sa parole exige la perfection et aussi une conséquence terrible pour justement le péché. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Ézéchiel 18, 4 nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais la bonne nouvelle encore, je reviens à l'incarnation, parce qu'à travers la vie de Jésus-Christ, Dieu a trouvé la solution. Et une bonne nouvelle qu'on peut annoncer à Noël quand on rencontre justement les gens, que Jésus-Christ, en s'incarnant, en devenant l'homme parfait, a vécu cette vie de perfection que vous et moi, nous n'étions pas capables justement de vivre. La Bible va nous dire que en Jésus-Christ, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas connu le péché, il n'y a pas connu le péché. Et la deuxième chose aussi qu'il faut dire aux gens, que Christ aussi a payé la dette, cette conséquence, pour une vie d'imperfection, Christ aussi a payé cette dette à notre place. Et là, nous avons les beaux textes que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, on peut présenter l'évangile de cette manière-là. Comment passer d'un être déchu, où est-ce que l'image de Dieu était tellement défigurée, les gens, il n'y aura pas de difficulté à saisir cela. Tu leur parles justement de ce qui se passe dans le monde. Ils vont le comprendre. Mais comment passer de cet être déchu, où l'image a été défigurée par le péché, à un être réconcilié avec Dieu, restauré et transformé. Et là, il y a deux choses qui s'impliquent ici. C'est la repentance et aussi c'est une foi en Jésus-Christ. Se repentir, c'est simplement de demander pardon à Dieu, de vouloir se détourner du péché. Et acte de foi, croire que Jésus-Christ, en faisant les deux, en devenant homme, en vivant la vie de perfection qu'on ne pouvait pas, et aussi en mourant sur la croix, en payant la dette, il a complètement satisfait les exigences de Dieu pour justement l'humanité. Ce que l'homme devrait être, Jésus-Christ, dans s'incarnant, il a fait cela. Et la dernière chose, on peut dire aux gens, une exhortation qui vient de la parole de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Et vous savez, ce serait le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau que quelqu'un pourrait jamais recevoir à Noël. Et tout cela commence avec l'incarnation, le miracle de Noël. Dieu s'est incarné, il a pris une forme humaine, parce qu'il voulait aussi que nous, en tant qu'êtres humains, nous soyons avec lui, comme nous avons entendu ce matin, pour l'éternité, que cette humanité soit rachetée, soit restaurée, soit transformée, soit réconciliée. Et un jour, vous et moi qui avons cru en Jésus-Christ, nous nous sommes repentis de nos péchés, on sera au ciel et l'image de Dieu va refléter parfaitement, complètement, totalement sur nos visages, parce qu'on va être capable de regarder la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ et on n'aura pas besoin de dire malheur à moi, je suis perdu, parce qu'un autre a subi notre châtiment à notre place. Alors, on bénit le Seigneur, hein? L'incarnation c'est une doctrine extrêmement importante et ça nous montre justement comment, dans notre pratico-pratique, comme les trois choses que j'ai mentionnées, s'approcher des gens avec l'Évangile, incarner ces vérités comme Christ l'a fait, et aussi quand on évangile, on parle du Seigneur Jésus-Christ, montrer comment est-ce qu'ils peuvent être transformés, réconciliés avec Dieu, à votre vie. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle que le Fils de Dieu est devenu chair et a déménagé dans notre voisinage. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Et merci Seigneur que tu n'as pas rejeté l'humanité dans une poubelle quand on s'est rebellé contre toi. Tu avais un plan pour nous et à travers l'incarnation, à travers ton Fils, tu nous as rachetés, tu nous as réconciliés avec toi. Et un jour, on sait que la transformation a déjà commencé. On sera complètement transformé à ton image. Seigneur, quelle bonne nouvelle à annoncer à nos contemporains. Alors remplis-nous, Seigneur, nos bouches de cette nouvelle afin que nous puissions, par nos vies, Seigneur, premièrement, par nos œuvres, par la façon dont nous vivons dans ce monde, que ça puisse paraître que nous sommes sauvés, que nous avons connu le Christ, et que ça puisse, Seigneur, avoir un impact pour les gens qui nous entourent. Merci pour ta parole. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main. C'est par nous, avec ta bénédiction, nous demandons au nom de Jésus. Amen.